19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir. Ravi de vous le retrouver. Vous savez, toujours un plaisir. On est en fin de semaine, on est vendredi. Qui dit vendredi, qui dit un joli week-end en perspective pour certains. Attention, grand froid polaire qui arrive, paraît-il. Donc, prudence à vous, comme dirait notre docteur Majid Sihussin, à qui je salue chaleureusement. Il est éditorialiste dans le Quoi de Neuf chaque jeudi. Je fais sa promo, comme tous les autres d'ailleurs. Je dis ça parce que ils sont nombreux à nous écouter. Alors, au programme, au menu, eh bien, de cette émission, les informés, jusqu'à 20h, nous sommes ensemble pour commenter, décrypter, analyser l'actualité. Nous allons revenir sur cet épisode, le clash. Le clash, vous savez, concernant la ville de Bondy, l'embrouille politique qui a pris une autre tournure avec la visite surprise de Kylian Mbappé, notre international footballeur. On reviendra aujourd'hui, on a eu le maire de Bondy hier, et bien aujourd'hui l'ancien maire de Bondy, Sylvine, donc Thomasin, est avec nous en direct dans une poignée de secondes. Tout à l'heure, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000 pour vous écouter sur les différents sujets. Et puis le face-à-face, on reviendra sur ces trois sujets qui ont retenu notre attention. Nîmes, un collégien demande à son enseignante si elle connaît Samuel Paty après avoir été réprimandé. Aïe, 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 aïe. Que faut-il craindre? Le Sénat qui retoque l'indemnité inflation au profit des mesures pour mieux cibler évidemment cette population. Et enfin, un autre sujet, comment la politique en 40 ans est devenue un véritable métier. On en parlera tout à l'heure avec nos débatteurs, avec Rudy Kazi, qui est un acteur politique, mais également aussi Amine Chriette. Vous le savez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, tout de suite, l'invité actu.
Les informés, l'interview.
L'interview pour clore évidemment cette fin de semaine, c'est avec l'épisode 2, celui concernant donc la ville de Bondy, où la visite surprise de Kylian, de l'international Kylian Mbappé, évidemment a provoqué une embrouille politique entre les gens de droite, les gens de gauche, avec le maire actuel Stéphane, donc qui était hier chez nous à l'antenne en direct. Stéphane Hervé, pardon. Et puis aujourd'hui, nous sommes avec Sylvine Thomasin, l'ancien maire de Bondy. Bonjour, Madame Sylvine Thomasin.
Bonjour, Beurre FM.
Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de vous dire, que se passe-t-il en ce moment? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un vrai clash local sur la ville de Bondy depuis le passage de l'international footballeur Kylian Mbappé, notamment avec le maire actuel et vous-même, Madame Sylvine Thomasin.
Oh, un clash, je ne sais pas. Une tempête dans un verre d'eau, peut-être. Écoutez, moi, j'ai été invitée, en effet, mercredi après-midi, mais ce n'est pas étonnant. Je suis amie avec Faïza, la maman de Kylian, depuis très longtemps, depuis même avant que Kylian soit le footballeur que l'on connaît aujourd'hui, évidemment. Mon mari a été son directeur d'école. Enfin, les liens sont les Bondinois le savent, les liens sont forts entre Faïza, Wilfried, Kylian, Ethan, enfin toute la famille, leur famille et d'autres. Donc, évidemment, il vient à Bondy et il m'invite, il me demande de venir. Voilà, à partir de là, monsieur le maire adjoint en charge des sports actuel,
monsieur Azedine Drivi, qu'on a eu hier sur notre antenne aussi, hein, d'ailleurs, qui regrettait d'avoir été évidemment presque rejeté hein, du terrain hier.
Nous n'exagérons rien parce que bon, je ne suis pas en charge du service d'ordre autour de Kylian, je sais juste que c'est un des Français les plus protégés, évidemment, mais je ne suis pas en charge de son service d'ordre, mais je les connais un peu de vue, et ce sont des gens très courtois, hein, évidemment. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il a pu approcher de Kylian, puisque moi, je l'ai vu à un moment, il était à 2-3 mètres de Kylian, à Zindrif, il a pu approcher. Je crois que c'est au moment où il est en effet approché peut-être un peu trop près, et où il a commencé à prendre pas mal de photos, que le service d'ordre a voulu l'évincer, parce que c'est vrai que Kylian vient à l'envie. Il a surtout envie de rencontrer les enfants. Mmh. Il n'est pas là pour être intercepté toujours par des adultes qui veulent faire la photo avec lui. Lui, quand il vient, c'est les enfants qu'il vient voir.
C'était une visite privée, c'était quoi au juste cette visite surprise?
Alors, c'était pas vraiment une visite privée. Disons que il sort donc cette BD que je viens de finir, d'ailleurs, que je recommande. Je m'appelle Kylian. Donc ces jours-ci, je crois que la sortie c'était mercredi d'ailleurs.
Dernier.
Et il avait très, c'est ça. Hein, et il avait très envie d'offrir aux enfants de son club formateur. Mmh. Vous voyez ce qui m'ennuie, c'est que dans cette histoire-là, on parle pas des enfants qui avaient les yeux qui brillaient quand ils ont vu Kylian.
Alors pourquoi ça a pris une tournure politique alors ? Pour quelle raison ? Hier, on a reçu le maire de Bondy, oui. Monsieur Stéphane Hervé, qui nous disait justement qu'il y a une espèce de règlement. Enfin, moi je vous pose la question, est-ce qu'il y a un règlement de compte entre vous ? Parce que lui, il parle d'instrumentalisation, de manipulation politique. Voilà ce qu'il dit sur notre antenne hier.
De manipulation politique, c'est-à-dire que Kylian aurait décidé de sortir cette BD au moment où, en effet, tout le monde le sait aujourd'hui à Bondy, lundi après-midi, la décision du Conseil d'État va tomber, qui va, a priori, de ce que l'on a entendu des propos de la rapporteure publique, confirmer l'annulation de l'élection pour irrégularité électorale de la part de l'équipe de Stéphane Hervé.
Alors, puisque vous en parlez, là, vous faites allusion, effectivement, de l'annulation des élections à Bondy. Hein. C'est la fin du suspense, d'ailleurs, hein, non ?
Oui, le 12 février, il y avait déjà eu annulation par le tribunal administratif. Ils ont porté appel avec les mêmes arguments. Le 21 octobre, la rapporteure publique a demandé dans ses conclusions, en effet, à appeler à un rejet de l'appel. En des termes d'ailleurs très durs, hein, puisqu'elle a commencé ses conclusions en disant ce qui s'est passé le 28 juin 2020 à Bondy relève d'un mauvais épisode de Baron Noir. Mmh. Donc vous voyez que c'était quand même assez... Pour des magistrats de Conseil d'État, c'est quand même assez rare. Elle s'est mouillée, cette rapporteure. On n'a aucun doute sur le sens des conclusions qui vont donc tomber lundi. Et comme par hasard, cette polémique arrive. Alors que le maire adjoint en charge des sports a pu rentrer sur le terrain. Évidemment, c'est un terrain municipal. Il a pu même s'approcher de Kylian. Moi, je pense que c'est le fait qu'il ait voulu prendre autant de photos qui a peut-être alarmé un petit peu le service d'ordre, qui essaie de tenir les adultes un peu à l'écart. Et de centrer la relation de Kylian avec les enfants.
Alors le maire adjoint, juste Monsieur Azzedine Drift, lui il dit que vous avez pas respecté le maire adjoint qui était donc qui était sur place, venu justement accueillir Kylian Mbappé, lui souhaiter la bienvenue. C'est ce qu'il nous disait sur notre antenne. Il disait regretter cela et regretter d'avoir été évidemment évincé de cette visite surprise.
Mais il n'a pas été évincé puisque s'il avait eu un comportement, je pense, un peu plus retenu. Il serait sans doute resté sur le terrain. Il n'y aurait eu aucun souci. Moi, je pense que c'est son comportement de vouloir se rapprocher de Kylian, de vouloir prendre tellement de photos, qui a dû, en effet, impacter le service d'ordre, les alerter et les amener à le raccompagner gentiment, avec courtoisie, vers les tribunes. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est une tempête dans un verre d'eau. La seule chose que l'on devrait retenir, c'est que Kylian Mbappé...
Sauf qu'aujourd'hui, on en parle un peu partout. Tous les médias en parlent aujourd'hui. Alors...
Oui, mais la seule chose qu'on devrait retenir, c'est qu'il est suffisamment attaché à sa ville alors qu'il est très jeune. Il est quand même parti maintenant, il avait 14 ans, il y a 8 ans. La seule chose qu'on devrait retenir, c'est qu'il est suffisamment attaché à sa ville, mais surtout à son club formateur, à l'ASB, pour quand il sort à l'occasion de la sortie
Sylvine, de sa BD. Sylvine Thomassin, Madame Thomassin, vous êtes ancien maire de Bondy. Est-ce que ça ne ravive pas un peu les tensions politiques dans la ville de Bondy, le passage surprise de Kylian Mbappé ?
Eh bien, vous voyez, c'est juste le contraire. Moi, je ne voudrais pas qu'un jour, Kylian ait des préventions pour revenir dans cette ville qu'il aime, auprès de son club formateur, de ceux qui l'ont formé, de ceux qui l'ont vu grandir. Je ne voudrais pas qu'un jour il ait des préventions à revenir, parce que ce genre de polémique, en effet, pourrait l'ennuyer. C'est juste le contraire qu'il fallait. Il fallait être un peu dans la retenue ce jour-là, et juste regarder les lumières dans les yeux des enfants. Ils n'en ont pas été capables, et je le regrette.
Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous répondez au maire ? Qu'est-ce que vous répondez à l'adjoint chargé des sports ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce que hier, ils ont tenté aussi de véhiculer un certain nombre de messages. Vous leur répondez quoi, effectivement, avec cette visite surprise de Kylian Mbappé, l'international, qui vient rendre visite à des jeunes, qui vient aussi offrir une BD ? Vous leur dites quoi ? Vous leur répondez quoi aujourd'hui ? Parce que, évidemment, la visite surprise aujourd'hui, elle tombe un peu à l'eau en quelque sorte, puisque on ne retient que les tensions politiques au sein de cette ville.
Eh bien, je leur en veux de cela. Je leur en veux de cela parce que on aurait dû avoir une autre retombée médiatique ou pas d'ailleurs, parce que Kylian ne cherche pas les retombées médiatiques en fait. Kylian, il fait les choses naturellement, comme il les sent, comme il les pense. C'est un jeune homme sain. Peut-être qu'il y aurait des leçons à prendre de ce côté-là, en effet. Mais moi, ce que
ils disent que c'est clairement un acte de campagne. Vous répondez quoi, Madame Thomassin ?
Mais le plus simple, ce serait de demander à Kylian ou à sa famille qui a organisé cela. Mmh. Est-ce que vous les imaginez prorater la sortie de la bande dessinée de Kylian, je m'appelle Kylian, au fait que peut-être il va y avoir des élections à Bondy, mais nous, depuis septembre, on attend la date d'audience au Conseil d'État. On n'avait aucune idée de la date de l'audience et de la date du jugement final qui sera rendu lundi. Évidemment, ce sont des chemins parallèles qui se sont pris.
Donc c'est un faux procès, hein, puisque aujourd'hui vous êtes dans l'opposition, vous êtes élu, hein, rappelons-le à nos auditeurs, sur la ville de Bondy, c'est un faux procès.
Mais c'est un faux procès complètement, c'est une tempête dans un verre d'eau et surtout, ça abîme, je trouve, l'image de Kylian qui continue à aimer sa ville et qui a envie d'y venir.
Vous en avez parlé avec Kylian Mbappé, j'imagine qu'il était au courant de ces tensions, on a dû lui rapporter. Est-ce que vous avez échangé ensemble, vous avez...
Non, j'en ai parlé avec Faïza, avec sa maman, mais quand j'ai vu la tournure que ça prenait, moi-même, je ne suis pas restée très longtemps, en fait, sur le terrain. J'ai dû rester moins d'une heure sur le terrain et après, je me suis fait toute petite et je suis partie. Je préférais, en effet, laisser la place à Kylian, aux enfants, aux entraîneurs de l'ASB.
Quelle interprétation donne-t-elle, justement, la maman de Kylian Mbappé?
Ben, écoutez, je sais qu'elle a été interrogée pour savoir, mais vous avez eu envie de faire de la politique, pourquoi vous avez invité Sylvine Thomassin? Et je sais qu'elle a seulement répondu, mais je l'ai invitée parce que c'est mon amie. Mmh. Voilà, c'est tout.
Tout simplement.
Ça s'arrête là, tout simplement. La vie normale, vous voyez, la vie normale.
On parlait tout à l'heure, on faisait référence, vous faisiez référence au Conseil d'État. Qu'est-ce que vous attendez? Je sais, évidemment, vous ne pouvez pas vous exprimer comme cela, mais rappelons à nos auditeurs, aujourd'hui, vous attendez une décision décisive, une décision qui risque, évidemment, de changer aussi le paysage politique, certainement local, de la ville de Bondy. Ça se passe lundi prochain.
Ça se passe lundi après-midi. Et vous voyez, quand on dit instrumentalisation politique, alors que Faïza a juste voulu, avec Kylian, m'inviter comme amie, moi, je me dis plutôt, depuis quelques jours, quand je vois l'ampleur de l'affaire, je me dis que l'instrumentalisation politique, elle est plutôt de l'autre côté. Parce que quand même, que l'on en fasse autant, tempête dans un verre d'eau, je vous disais, qu'on en fasse autant, à 48 heures, 72 heures, lundi après-midi, de la tombée du jugement définitif, ça montre quand même beaucoup de fébrilité,
donc,
et beaucoup d'inquiétude.
Vous risquez de vous retrouver à refaire campagne localement?
Ah oui, on va refaire campagne.
Moi, j'ai jamais... Et dans quel état d'esprit vous êtes si vous refaites campagne? Vous allez reconquérir la mairie que vous connaissez d'ailleurs?
Ça, c'est les électeurs qui en décideront. En tout cas, moi, je suis sereine. Ce que j'ai vu de changement... sans doute que certains Bondinois attendaient du changement. On attend toujours du changement, on attend toujours mieux, et je l'entends. Écoutez, le changement, quand ils m'en parlent, ils me disent plutôt qu'il n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient du tout. Donc moi, je pense à la sagesse des électeurs. On verra ce qui se passera. L'élection se tiendra sans doute autour de mi-janvier. Mais une fois que l'élection sera gagnée par l'un ou par l'autre, peu importe, à partir du moment où c'est démocratique, à partir du moment où il n'y a pas de triche comme il y a eu en juin 2020, moi, la décision des électeurs, je la respecte.
Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé effectivement sur la visite surprise de Kylian Mbappé. Merci, Madame Sylvine Thomassin, d'avoir été avec nous dans Les Informés. À très bientôt.
Bonne soirée à vous, BFM.
Merci, 19h13, 14, bientôt, 0153 48 3000. J'imagine que vous avez votre mot à dire. J'imagine que vous avez envie de dire des choses aussi, vous auditeurs, sur le passage de Kylian Mbappé. Est-ce qu'on peut regretter effectivement que cela a pris une tournure politique, le clash entre d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche? Est-ce que tout simplement, comme nous l'a rappelé Sylvine Thomassin, est-ce que c'était pas un moment avec les gamins, hein, les gamins de la cité de Bondy, avec le club de foot, avec la distribution de la BD qui est sortie il y a quelques jours? Est-ce que c'est pas le sport qui doit l'emporter avant tout, donc, et qu'on ne soit pas envahi en permanence avec la politique? Aujourd'hui, est-ce que sport et politique peuvent faire bon ménage? Je vous attends au 01 53 48 3000 avant de retrouver les débatteurs influenceurs. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Il est 19h20, le standard, c'est parti.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Dans une poignée de minutes, nous allons retrouver les débatteurs qui se sont retrouvés coincés dans les bouchons. Ils arrivent, juste sont là. Justement, il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est coincé dans le bus, qui s'est retrouvé dans les bouchons. 19h20, le standard est ouvert, 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre sur la ville de Bondy, avec le passage surprise de Kylian Mbappé qui vient offrir sa BD, mais également rencontrer les enfants. justement pour les encourager, leur donner un peu d'espoir. Et cela a pris une tournure politique. 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les choses, que la politique prend toujours évidemment le pas, franchit le pas sur le sport, sur le football en l'occurrence, cette visite surprise. On parlera aussi de Nîmes, réprimandé le collégien. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à son enseignante si elle connaissait Samuel Paty, en quelque sorte, parce qu'il s'est senti réprimandé. Donc, il a renvoyé le truc en disant « Est-ce que tu connais Samuel Paty ?» Et le professeur, bien sûr, a porté plainte. Et le gamin a été placé en garde à vue au commissariat. Alors, si votre gamin se retrouve à faire ce genre de, évidemment, de message à son professeur, comment vous réagissez-vous? Justement, 0153 48 3000. Qu'est-ce que vous diriez à votre enfant? Je suis curieux de le savoir, c'est vrai. Parlons-en, 01 53 48 3000. Tiens, il y a Mohamed de Lille. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Bienvenue mon cher Mohamed.
Merci à vous, encore une fois. C'est très sympa de vous avoir.
Partagez, moi, mon cher Mohamed, partagez.
Merci beaucoup. Moi, je vais pas aller dans ce sujet parce qu'hier, j'ai essayé de vous avoir et j'ai pas pu.
Bon.
Par rapport, je suis en retard, c'est en décalé. C'est par rapport à la gamine là, qui s'est suicidée par rapport au harcèlement des enfants.
Ah oui, Dina, absolument. Ouais.
Et moi, j'avais envie de dire, si les parents m'écoutent, c'est que on peut, par exemple, et tout, avoir des garde-fous à l'école de partout, mais je me pose, moi, j'ai été éducateur.
Oui.
Mais je me pose la question, comment se fait-il que les parents n'aient pas senti quelque chose ou n'aient pas vu que cette gamine était mal à l'aise? Donc moi, j'ai une petite réponse.
Mais c'est la raison pour laquelle hier, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a fait un message qu'il a posté sur ses réseaux sociaux en disant qu'il avait entrepris, en tout cas pris des mesures concrètes. Vous avez vu ces mesures?
J'ai écouté,
avec cette application, justement.
Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire et tout, c'est surtout ce qui me paraît très, très important là-dedans et tout, le point de départ, c'est que les parents, par exemple, cette fille qui n'a pas osé peut-être dire à ses parents qu'elle avait des soucis.
C'est vrai,
ça veut dire
non, ça arrive.
Quelque chose. Ça veut dire un malaise profond. Vous savez qu'il y a des parents qui disent aux enfants, écoute, tu règles tes problèmes toi-même.
Oui.
Il ne faut pas venir me voir. Donc, c'est très grave parce que moi, je prends à l'origine parce qu'on peut mettre Macron, il peut mettre des applications, ce qu'il veut. Mais avant tout, à la base, les parents, ils ne doivent pas freiner les enfants. Mmh. Ils ont une peur à venir vers eux et à leur dire, écoute, ça va pas.
Non, Rudy Kazi, justement, qui est débatteur parmi nous, je vous ai vu secouer votre tête quand je disais qu'Emmanuel Macron a proposé des mesures. Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais c'est-à-dire ce genre de mesures, ça sert à rien. Enfin, pardonnez-moi mon tribalisme. Non, c'est pas que ça sert à rien. Ça a une utilité, mais le problème, c'est que c'est pas en utilisant les technologies ou les nouvelles technologies qu'on va résoudre des problèmes qui sont des problèmes sociaux. Ce qu'il faut, c'est faire un état des lieux de la situation, chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeunes qui sont harcelés, et comprendre pourquoi le lien est autant distendu entre les parents et les enfants. Pourquoi est-ce que les parents ont de moins en moins la capacité de pouvoir suivre les enfants, et les enfants de moins en moins de proximité avec leurs parents?
Ouais.
Voilà, il y a beaucoup trop de jeunes.
Ce que dit Mohamed, c'est très intéressant. C'est que comment se fait-il que les parents n'aient pas pu voir, évidemment, arriver ce malaise de Dina qui, après la suite, on l'en connaît. Merci Mohamed de votre appel de Lille. Hein. Et je connais votre fidélité, et évidemment, merci à vous.
Je suis invité.
Je sais, mon cher Mohamed, mais...
Je dis encore une fois aux parents, il ne faut pas faire peur aux enfants de leur dire « Régler les problèmes toi-même, quand tu as des problèmes à l'école. » C'est tout petit, on leur apprend déjà ça. Et moi, je dis non, parce qu'après, il n'osera pas venir dans les problèmes graves.
C'est ça. Ouais. Et puis, il faut rester proche des enfants.
Oui.
Il faut être proche d'eux pour qu'ils aient la parole facile, en fait.
Absolument. Merci Mohamed.
Voilà, on va aller...
Oui, absolument, il faut qu'ils aient confiance. C'est pour ça qu'il faut suivre vos enfants en permanence. Et moi, je le dis tout le temps, sur cette antenne d'ailleurs, dans les informations.
Et puis,
sur
l'autorité aussi, on va en parler tout à l'heure. Mais...
j'aime bien. Je me mêle les pinceaux. Amadou de Grenoble. Amadou, bonjour. J'ai dit
bonjour,
Télésud.
Bonjour, merci de votre partage, de me prendre.
Mais je vous en prie, mon cher Amadou.
Ouais, ce que vous venez de dire, j'ai bien entendu, faut pas tout le temps c'est vrai que c'est pas le jugement de valeur de juger les gens. Mmh. Le problème, on est des êtres humains, il y a des choses qui nous échappent.
Oui.
Aucun parent ne souhaite le malheur de son enfant. Les enfants, ils se mettent à défensif. Les enfants, effectivement, on appelle ça, on a enlevé de valeur du parent.
Amadou, on vous a perdu.
Respecter soi-même.
Oui.
S'aimer soi-même d'abord, après tu respectes les autres.
Oui.
Les enfants d'aujourd'hui,
On est en train de vous perdre, mon cher Amadou. Amadou, on l'a perdu. Il a un problème de connexion. Le face-à-face 0153 48 3000. Continuez à nous appeler, c'est on vous attend. Bien,
les informés, le face-à-face.
Et dans une poignée de minutes, c'est le Quoi de Neuf, vous le savez, avec Michel Taube. Le face-à-face avec Amit Chriette. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Pour le retard.
Éditorialiste, géopolitologue, mais il n'y a pas de problème. Je comprends, vendredi soir. Qu'est-ce qui se passe avec Hidalgo?
Eh ben, écoutez, les transports.
Ouais, les transports.
Hidalgo bloque tout.
Vous voulez, oui, un message voilà. à transmettre, ben, là, en direct? C'est votre coup de gueule.
J'espère que Mme Hidalgo fera quelque chose. Enfin, je ne sais pas si elle sera réélue pour les prochaines élections. Je ne pense pas, mais bon.
J'aime bien. Bon. Rudy Kazi, bonjour.
Bonjour, Rudy.
Qui s'est retrouvé avec la nouvelle. Vous avez endossé un tout nouveau poste.
Oui, oui,
c'est vrai. La toute nouvelle casquette de directeur.
Délégué général
de
l'Association des élus de France.
Des élus de France. Bravo. Allez, messieurs, nous allons commencer ce premier sujet avec Nîmes. Un collégien qui demande à son enseignante si elle connaît Samuel Paty après avoir été réprimandé. Des choses qui sont en train de s'installer. C'était pour l'intimider, bien sûr, hein, qu'il a cité Samuel Patil, les faits se sont déroulés en plein cours, alors que l'enseignante rappelait à l'ordre l'élève, réprimandait l'élève en question sur son comportement agité, et ce dernier a rétorqué aussitôt: vous connaissez Samuel Paty, avant d'entraîner ses camarades dans le il les a tous embarqués avec lui. Alors, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, évidemment, c'est: est-ce que on peut redouter que cette pratique se banalise finalement dans les collèges, dans les lycées, et qu'on se retrouve avec, évidemment, des phrases comme ça, comme on l'a entendu. Il est placé en garde à vue. Il a été placé en garde à vue, le jeune homme. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? Comment? Tiens, Rudy Kazi, allez-y.
La garde à vue, je trouve que c'est un peu fort. C'est un mineur, c'est ça?
C'est un mineur.
Voilà, je trouve que c'est un peu fort pour un mineur. Mais enfin, bon. En fait, ce qui est dangereux là-dedans, c'est de pas tomber.
Il est mis en cause. L'adolescent a été placé en garde à vue au commissariat et mis en cause pour des faits d'actes d'intimidation envers une personne exerçant une mission de service public. Voici donc, et bien qu'il ait reconnu les faits, il a assuré n'avoir pas eu l'intention de menacer son professeur.
Oui, mais bon, voilà, en fait. Quand même, on est dans l'école. Ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine référence au.
Sauf que c'est dans les esprits, Samuel Paty.
Oui, voilà. Mais déjà, il doit y avoir une référence quand même au personnel donc de l'école, le maître d'école, le professeur. C'est censé déjà symboliser en fait quand même l'autorité. Donc on vit déjà dans une société où il y a une perte d'autorité, ne serait-ce que dans le rapport entre les enseignants et les jeunes. Et là, on y voit quoi? On y voit en fait tout simplement un problème d'éducation, voire un problème d'environnement. Moi, j'ai eu la chance et parfois un peu le désavantage d'avoir grandi dans un quartier. Et à notre époque, malgré qu'on pouvait avoir des moments où on faisait un petit peu n'importe quoi, on faisait des bêtises, mais l'éducation des parents était là. Si bien que lorsqu'on se rendait coupable d'un manquement, d'une attitude irrévérencieuse vis-à-vis d'un professeur, la sanction était forte à la maison. Et à un moment donné, on finissait par ne plus recommencer ce genre de choses.
Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, c'est plus le cas.
Ben, j'ai l'impression qu'il y a une évolution dans la société qui fait qu'on a conféré toujours plus de pouvoir, en fait, aux enfants, entre guillemets. Et on en a retiré certains. Je dis pas, par exemple, les enfants, faut les tabasser. Mais lorsqu'on remet en question le droit des parents à pouvoir recourir, par exemple, à la correction, c'est symboliquement un retrait de l'autorité. Donc en même temps, l'État se plaint que les jeunes sont mal éduqués, donc du coup ils s'en prennent à des symboles de l'État qui sont les professeurs, mais en même temps on retire de l'autorité aux parents. Et qu'est-ce qu'on fait pour que les parents puissent conserver le cadre qui permet à des jeunes de pouvoir grandir et se développer psychologiquement comme des personnes sensées? Voilà, il y a de plus en plus de familles monoparentales, des hommes qui n'assument pas leurs responsabilités, même parfois des mères qui n'assument pas leurs responsabilités. Est-ce que c'est une société saine que l'on veut construire de la sorte pour, en bout de chaîne, se plaindre qu'un enfant fasse en quelque sorte de l'apologie du terrorisme? C'est pas un problème de religion. Ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de structuration de la société et donc de pouvoir recourir à des moyens qui vont permettre à ces jeunes de revenir reprendre un peu de bon sens.
Allez-y.
Je suis pas vraiment d'accord avec toi.
Justement, avant de retrouver le code.
Les prémices de la loi sur le séparatisme.
Mais pourquoi t'es pas d'accord avec moi?
Attendez.
Le président de la
non, mais c'est pas un problème religieux.
Elle visait.
On en a fait un problème religieux.
L'objectif de la loi sur le dit séparatisme, principe républicain, elle visait la communauté musulmane française. Et donc, par conséquent, cette affaire-là se trouve où? comme par hasard dans un quartier populaire, comme par hasard des familles musulmanes. Et donc, il y a effectivement... Moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on parle aussi...
Le jeune enfants. De Nîmes, c'est un en tout musulman cas, de culture, c'est ça?
Non, mais pas musulman, ça veut rien dire, musulman de culture, musulman de religion. L'islam, c'est pas une culture en soi.
Non, ouais, mais d'accord, mais il y a des...
Islamique.
Non, mais, attends, il y a des musulmans... qui sont pas pratiquants.
Ça démarre bien le face à face.
Non, mais il y a des musulmans qui sont pas pratiquants, donc ils le sont culturellement.
Je sais pas si on peut être musulman ou pas pratiquant, ça c'est un débat théologique, mais en tout cas.
Bah, moi j'en ai croisé des tas dans ma vie, hein, des gars qui se disent musulmans, mais ils pratiquent pas.
Ce n'est pas le sujet, messieurs. Ce n'est pas le sujet.
Est-ce qu'on peut être républicain?
Non, mais faut.
Ce n'est pas le sujet.
Sauf que la République n'est pas une religion.
S'il vous plaît. Alors allez-y, développez votre idée.
Elle a sa religion, il y a des laïcs.
Développez votre idée.
Quand on dit que la France est de culture chrétienne.
Développez votre.
Est-ce que tous les Français sont chrétiens? Même si on dit que la France est de culture chrétienne.
Développez votre idée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors, allez-y. Allez-y.
À ma connaissance.
Allez-y, s'il vous plaît.
La France est de culture chrétienne. Il y a des chrétiens.
Sur les jeunes, l'adolescent et
l'enfant. Non, mais il faut clarifier, je voulais clarifier les débats.
Mais oui, mais là, on n'a pas clarifié, là, t'embrouilles.
Allez, moi, j'arrête, je vais passer au coin de neuf. Non, je reviens après. 19h31, le coin de neuf.
Les informés, le coin de neuf.
Laissez parler, mais visiblement, on ne peut pas avancer. Michel Taub, bonjour.
Bonjour.
Ça clash avant l'heure, hein, ça clash avant l'heure ici. Hein.
Il y a de la vie.
Il y a de la vie. Sa vie, c'est bien, mais sa vie. Alors, je vous laisserai finir, bien sûr, Michel Taub, qui est le patron d'Opinion Internationale. Et vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur sur la Covid-19, mais également aussi sur le vaccin. On vous écoute, mon cher Michel Taub.
Merci. Alors bon, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas si c'est le cas aussi sur Beurre FM, mais en tous les cas, sur les chaînes d'information continue, on n'arrête pas, on ne parle plus que du Covid. Le Covid est de retour sur les plateaux de télé.
Oui.
Ça s'enchaîne les uns derrière les autres. Non, mais c'est vrai que...
Comme à l'époque.
Voilà, comme à l'époque, triste époque. Non, la réalité, c'est que malheureusement, la cinquième vague arrive en France. Elle vient de l'est de l'Europe. Hein. Il faut en Russie, il y a de très très nombreuses personnes qui sont atteintes du Covid et avec des formes graves. En Europe de l'Est, en Bulgarie, en Slovénie, en République Tchèque. Et là, malheureusement, la vague épidémique arrive en Allemagne, où il y a une très 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 forte accélération du Covid. Il n'y a pas eu autant de personnes qui l'ont eu en Allemagne hier que depuis le début, depuis mars de 2020. Donc malheureusement, l'épidémie arrive. Elle arrive en France. Il y a une augmentation de la vague épidémique. Et aujourd'hui, en déplacement dans le nord de la France, le président de la République a parlé de cette fameuse troisième dose de vaccination. Et c'est vrai que je pense, j'en suis vraiment intimement convaincu, parce que ce virus est très complexe, parce que, un peu comme la grippe, vous voyez la grippe,
oui.
Il y a des vaccins contre la grippe.
Bien sûr.
Mais ces vaccins n'empêchent pas de l'avoir, sauf qu'ils permettent d'atténuer et d'éviter beaucoup plus les formes graves. Donc je pense que on va pas pouvoir y manquer une cinquième vague. Lorsqu'il y en a eu la deuxième, on se disait, y aura-t-il la troisième? Quand il y a la troisième, y aura-t-il la quatrième? Non, on en est à la cinquième. La réalité, c'est que je le crains fort, on va devoir s'habituer à des vagues épidémiques du Covid. Et donc, cette fameuse dose de rappel, cette piqûre de rappel, c'est le cas de le dire, je pense qu'il faut s'y habituer et je pense que d'un jour à l'autre, la Haute Autorité de Santé et le gouvernement vont annoncer que cette troisième dose est élargie à une grande partie de la
population. Vous pensez vraiment ? Vous êtes convaincu de ça ?
Ah, moi je pense qu'on va y arriver là, très 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 rapidement et que là actuellement c'est les personnes de plus de 60 ans, mais ça va vite baisser au plus de 40 ans et ça va être élargi encore plus.
Bon.
Parce que malheureusement, il semble bien que le vaccin atténue fortement ses effets après plusieurs mois, après l'avoir pris il y a plusieurs mois. J'aimerais dire aussi, c'est vrai, une chose très importante en Europe sur le Covid, c'est que l'Autriche, et ça c'est une sorte de tabou qui saute, l'Autriche est le premier pays européen qui a annoncé la vaccination obligatoire pour tous les Autrichiens. Elle sera en vigueur à partir de début février. Et ça secoue beaucoup dans l'opinion publique en Autriche. Mais c'est vrai que tout ça, c'est dû au fait qu'on se rend compte qu'apparemment, on va vivre longtemps avec ce virus. Alors, la vaccination permet de se prémunir ou de réduire très fortement les risques de formes graves. D'ailleurs, on voit que dans les hôpitaux, s'il y a une augmentation des hospitalisations, en revanche, en réanimation, il y en a heureusement pas encore trop. Donc, c'est que quelque part, le vaccin est efficace contre les formes graves et c'est essentiel. Mais pour se prémunir, il va certainement falloir faire des doses de rappel très très fréquentes. Et je pense que d'ici Noël et la fin de l'année, beaucoup de Français vont devoir y aller. Bon. Et donc voilà, c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est un point d'actualité. Je pense qu'il faut s'y habituer. Et dernier point pour les non vaccinés, je pense aussi, comme c'est le cas dans d'autres pays, ça va être de plus en plus difficile de rester dans la posture de ne pas vouloir se vacciner, parce que il y a de plus en plus de portes qui vont se refermer à ceux, notamment ceux qui sont âgés, ceux qui ont qui ont du surpoids, qui ont des problèmes cardiovasculaires. Je pense que petit à petit, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que la vaccination sera nécessaire, parce que sinon, il y a plein de services auxquels ils n'en pourront plus avoir accès.
Eh bien, merci pour ce
billet, mon cher Adil.
Bon, écoutez, merci pour ce billet d'humeur, comme chaque vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end, mon cher Michel Taube, le patron de... Vous êtes éditorialiste, mais également aussi le président fondateur du média en ligne Opinion Internationale. Mon cher Michel, bon week-end.
À bientôt et salutations à tous les auditeurs, très nombreux de Beurre FM, que je salue.
Absolument, c'est vrai, exactement. Allez, tout de suite, 19h36, on marque la pause, pub, et on se retrouve tout de suite après. Je redonnerai la parole à Amine Chriette, justement, pour développer sur ce premier sujet concernant cet adolescent avec son professeur. L'un a été réprimandé, et puis l'autre... qui dit, voilà, est-ce que tu connais Samuel Paty ? Et puis la suite, on la connaît. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Heure, 19h40 dans les informés, dernière ligne droite avec Rudy Kazi qui est un acteur politique et qui est un élu aussi par ailleurs. Amit Chriat aussi également, éditorialiste, géopolitologue. Messieurs, nous continuons ce débat avec notamment Amit Chriat qui voulait, on va aller vous le récupérer votre café, ne vous inquiétez pas. Je vais demander le, si vous voulez bien.
Ah, vous parlez de qui, c'est pas moi?
Mais si, on va vous faire plaisir.
Café?
Mais non, on va vous faire plaisir. Nîmes,
vous avez
alors,
dit que je faisais des services après-vente, c'est pour
le
ça.
Le collégien et Nîmes et le professeur. Qu'est-ce que vous dites vous? Je vous
écoutez,
ai interrompu avant
sans
le
rentrer
code.
Dans le débat, etc., religieux, mais ça, c'est un autre débat que, dont on n'a pas ensemble. Moi, je pense effectivement que ce que je voulais aimer, c'est de parler effectivement du contexte. La loi sur le séparatisme, effectivement, a renforcé effectivement et a stigmatisé une partie de la population, une partie en particulier de la jeunesse aujourd'hui. Lorsqu'on parle des quartiers populaires, on ne traite pas de la même façon les quartiers populaires, cette jeunesse-là, que la jeunesse dans ces arrondissements. Sur la question de l'autorité, aujourd'hui, certes, il y a un vrai problème sur l'autorité, notamment avec les réseaux sociaux. On le disait en off, les réseaux sociaux aujourd'hui, effectivement, les enfants ne font pas la différence entre la réalité et les réseaux sociaux.
C'est ce qu'on disait.
Il y a effectivement une influence. Mais j'aimerais dire aussi autre chose que l'on ne dit pas, pour aller plus dans le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quoi? C'est quel est le projet de société aujourd'hui que les hommes politiques projettent au sein de cette jeunesse aujourd'hui?
C'est une vraie
quand
question.
Vous avez des gens qui
c'est
ont bac plus 4, bac plus 5 et qui ne trouvent pas du travail.
Vous avez raison, c'est une vraie
question.
Vous avez
des discours présidentiels qui disent, nous, vous les Français de quoi vous? Mais vous, moi, je suis pas dans ce... Vous, moi, vous dans quoi? Quand il s'agit de copinage ou quand on se partage les potes avec Science Potes et entre potes, hein, et les autres, cher monsieur...
Il nous fait dire, comment il s'appelle? Grand corps malade.
Voilà. Donc, cher monsieur, à un moment donné, moi, je dis effectivement que si aujourd'hui, on veut essayer d'apaiser les choses avec cette jeunesse-là en particulier qui souffre dans les quartiers populaires, il va falloir lui donner un cap, un projet de société. Et ça commence par combattre le racisme, combattre la discrimination, supprimer les ZEP. Arrêtez de penser que cette jeunesse-là, en particulier dans les quartiers populaires, c'est une jeunesse de cassos qui ne sait pas aujourd'hui se prendre en main. Et il va falloir arrêter. Parce que lorsqu'il s'agit de quartiers populaires, on tape fort, on médiatise. Lorsqu'il s'agit de personnes qui vivent dans ces arrondissements et qui prennent de la drogue, on n'en parle pas. D'accord ? Dans les quartiers riches, c'est des rapports qui ont été publiés. Hein.
Oui.
Moi, je pense que la question ne tourne pas uniquement autour de la jeunesse des quartiers, même si... par rapport à cette question, elle peut s'y rapporter. Mais quand vous prenez, par exemple, ce qu'on aime invoquer aujourd'hui, l'ensauvagement de la société, on le voit aussi au niveau de la jeunesse, et ça ne concerne pas que la jeunesse des quartiers.
Dans les médias,
et mais je poursuis. Le problème est que cet ensauvagement qui concerne effectivement tout le monde ne doit pas être vu uniquement au travers du prisme de l'embrasement des quartiers, etc. Quand vous regardez ce qui se passe au niveau du harcèlement, donc du harcèlement scolaire, ça procède en fait des mêmes mécanismes. C'est-à-dire en fait Internet, une vidéo qui circule, etc. Un enfant qui se retrouve pris dans les phares de cette violence scolaire, et puis ensuite ça peut finir dans des drames, des coups, etc. On a vu effectivement parmi il y avait l'affaire de la jeune Dina dont on parlait, mais il y a eu d'autres affaires comme Argenteuil, cette gamine qui s'était fait tuer, etc. Voilà, donc moi je pense que il faut prendre le problème à la base. On parle de l'éducation, donc de l'encadrement éducatif de ces enfants, y compris dans leur environnement familial, mais aussi la responsabilité de la société. Parce qu'en fait, les deux vont se renvoyer la balle. Lorsqu'on parle d'éducation nationale, est-ce que c'est vraiment à l'État d'éduquer les enfants?
Non.
En fait, déposséder les parents, c'est pas son rôle. Mais pourtant, on a une une globalisation
quoi,
en fait.
L'État a dépossédé quoi?
Je trouve que l'État petit à petit dépossède les parents de leur responsabilité, oui. Parce que il y a donc les droits de l'homme et du citoyen, etc., qu'on a décortiqué aussi pour les enfants. C'est-à-dire en fait, il est important de garder les enfants, les droits de l'enfant, effectivement, mais ça procède des droits de l'homme. C'est important de garder l'intégrité, de protéger l'intégrité des enfants.
Ce qui expliquerait le comportement aujourd'hui de ces adolescents.
C'est ça, on n'a jamais juste milieu en fait. En voulant protéger les enfants, on leur dévolue beaucoup trop effectivement de. Attends, pardon, juste finir le raisonnement. On leur dévolue beaucoup trop de droits, mais des droits en fait qui parfois deviennent deviennent dangereux pour eux.
Alors attendez, Ahmed Chrier.
C'est là où moi je pointe la responsabilité de certains hommes politiques et de la nouvelle génération dont tu représentes ici, que tu représentes aujourd'hui, la nouvelle génération d'hommes politiques. Il faut aussi appuyer et mettre en évidence que malgré aujourd'hui des parcours qui ont réussi dans la société française, il y a un plafond de verre. Lorsqu'on parle d'éducation aujourd'hui, moi je suis d'accord, je suis le premier, mais à un moment donné, il y a un plafond de verre dans la société française.
Non, mais je suis d'accord, mais je vois pas le rapport avec le jeune Denis, en fait.
Évidemment, bien sûr que si aujourd'hui.
Bah, où est le rapport? On parle d'un enfant qui est au collège.
Il n'y a pas de modèle aujourd'hui pour ces jeunes. Il n'y a pas de modèle aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui il y a une discrimination en France. On sait qu'il y a un plafond de verre. Par conséquent,
aujourd'hui. Mais ça, je suis d'accord, mais il n'y a pas forcément de lien.
Par ricochet, vous voulez nous dire?
Mais le ricochet est quand même loin. Là, c'est d'abord l'encadrement familial.
Tu vas comprendre mon raisonnement. Même si, admettons qu'un enfant réussisse plus tard, bac plus 4, il aura un plafond de verre. Comment pourra-t-il se projeter dans la société française quand on sait qu'il y a de la discrimination, quand on sait que une personne qui est d'origine maghrébine ou noire a 10, 12 fois moins de chances de trouver du travail? Quand on sait aujourd'hui dans le 440, aucune personne de la diversité dans les médias.
Non, mais c'est pas parce qu'il va avoir modèle de réussite que du coup il va se dire bon, faut pas que je fasse des raisonnements avec Samuel Paty.
C'est quand même le reflet de la société.
Il faut un projet de
société. Oui, mais je suis d'accord. Non. Alors, la question du modèle. Non, mais si je peux répondre, s'il peut y avoir un peu de contradiction.
Tu me coupes et en plus tu me laisses pas terminer.
Alors,
mais t'as parlé pendant 2 minutes.
Alors, attendez, il va aller jusqu'au bout.
Et l'amabilité de me laisser terminer.
Alors, allez-y. Et ensuite, je laisse Redicazi.
Il y a un équilibre.
C'est pas les élections.
Il y a une limite à cette question d'éducation, à cette question de développement d'urbanisme. Il y a une limite. La limite, c'est quoi? C'est la question du travail. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui mettre en évidence, c'est que les hommes politiques de ta nouvelle génération aujourd'hui doivent mettre en évidence, c'est la question du plafond de verre aujourd'hui. Nous n'avons pas en France une représentativité digne de ce nom. Sur la question de la diversité aujourd'hui, nous avons des talents dans les quartiers populaires, partout. Quartier populaire ou pas d'ailleurs, même dans les arrondissements de Paris, et il y a un plafond de verre.
Bon,
il faut aujourd'hui.
Alors, attendez, Ahmed Chrier, on a compris votre propos. Redicazi.
Moi, j'ai pas attendu Ahmed Chrier pour m'investir sur la question des quartiers et des discriminations. J'ai été responsable d'associations dans ce sens. Mais pour moi, on va effectivement dans deux sens qui sont différents. Moi, je suis père de famille, ok? J'ai grandi dans un quartier. Aujourd'hui, mes enfants ne grandissent pas dans un quartier. Donc, ça veut dire que la question du plafond de verre, c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose contre lequel je me bats et aussi j'éduque mes enfants à réaliser que ces choses existent, mais qu'ils ont aussi les capacités de pouvoir les dépasser. Mais là, le problème concernant le jeune de Nîmes, son problème, c'est l'encadrement familial. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut préparer...
Je comprends son propos. Rappelez-vous sur notre antenne ici dans les informés, vous aviez parlé de votre fille, ce qu'elle a vécu comme débat de racisme, parce qu'il était noir, etc. Souvenez-vous, vous étiez assis là et vous nous aviez exposé, ça avait provoqué, si vous voulez.
Non mais je suis d'accord.
ça avait bousculé votre fils.
Je suis d'accord. Est-ce que je peux finir?
Le problème.
Oui.
Cette situation, elle est entendable. C'est pas le problème. C'est pas uniquement le seul problème. Là, on parle en fait de jeunes qui sont déstructurés, qui sont même décérébrés. Parce qu'aller faire des parallèles comme ça, c'est vraiment en fait un problème de structuration mentale. Donc ça veut dire que les parents doivent reprendre la main là-dedans. Et on doit aider les parents à pouvoir mettre en place un cadre qui permet à ces jeunes de pouvoir se développer. Moi j'ai 6 enfants. Imaginez par exemple, aujourd'hui j'abandonne mes responsabilités de père. Dans quelle situation vont se retrouver mes enfants? Comment est-ce qu'ils vont faire pour décortiquer la société dans laquelle ils vivent? Est-ce que mon épouse, et restant seule, va réussir à se battre avec 2-3 enfants? Le problème, c'est la structuration aujourd'hui de la famille. Aujourd'hui, on n'en a rien à faire. Il y a toujours des nouvelles lois qui arrivent pour déstructurer la famille. On n'aide pas les familles à se former. On a cassé l'autorité parce qu'il n'y a plus de socle familial sur lequel il faut s'appuyer. Une fois que le socle familial est là, on en vient aux questions que vous représentez, c'est plus facile par exemple pour un père, c'est plus facile pour un père par exemple comme moi de m'asseoir à côté de mon gamin et lui dire écoute, tu es noir. Aujourd'hui déjà il y a des gens qui te parlent mal, qui sont racistes et qui le manifestent vis-à-vis de toi. Mais demain tu vas retrouver cette discrimination là dans l'embauche, etc. Mais l'enfant, il voit comment je me bats au quotidien, il voit un père responsable, il voit une mère responsable. Ça le structure déjà intellectuellement. Comme ça, lorsqu'il faut se battre contre ces réalités, il est armé, il est structuré et il n'attendra pas que les politiques puissent mettre en place les éléments qu'il faut pour les faire. Je dis pas qu'il faut pas qu'il ne le fasse pas.
Est-ce que ça suffit
si je suis législateur,
est-ce que ça suffit? Il y a l'environnement qui parfois prend le dessus, l'environnement du quartier, l'environnement de la ville.
En fait, il faut une politique globale. Il faut que l'État soit fort et de l'autre côté, il faut que les familles soient fortes.
Pourquoi je mets l'accent sur la question du plafond de verre? Pourquoi? Parce que le véritable problème, c'est la question sociale. Toutes les inégalités sont concentrées lorsqu'on parque des gens dans des cités, effectivement. On s'en rend compte que la violence, elle est dans ces quartiers populaires. Pourquoi elle est dans ces quartiers populaires? Mais c'est pas au hasard. Parce que
Il y a aussi la zone rurale. Regardez les jeunes, comment ils sont déstructurés dans les zones rurales aussi.
Que les inégalités aujourd'hui, structurellement, elles sont dans des quartiers populaires.
On se pose pas la question des enfants des gilets jaunes. Qui sont les fils, les filles des gilets jaunes? Ce sont des enfants qui vivent les mêmes situations dans les quartiers.
Ça fait 30 ans qu'ils sont gilets jaunes.
Mais je suis d'accord.
On n'a pas attendu les gilets jaunes pour savoir.
Mais les gilets jaunes qu'on le voit aujourd'hui, ils existaient déjà avant.
Il y avait des gens de quartiers populaires dans les gilets jaunes qui existaient.
Et voilà, sauf qu'on mettait pas l'accent dessus parce que c'était effectivement.
N'opposons pas, s'il vous plaît, gilets jaunes, quartiers populaires. Je pense que d'ailleurs ils participent finalement à la
mais
même
je
cause.
Je ne les oppose pas, justement, je dis qu'il y a dans les quartiers populaires et dans les zones rurales des jeunes qui...
C'est chaud aujourd'hui, les amis.
Dans la ruralité, on ne se fait pas contrôler 20 fois. Dans la ruralité,
il est fâché.
Et en plus, dans la ruralité, on n'est pas discriminé par un CV. Excusez-moi, quand on habite en Normandie, on n'a pas 12 fois moins de chances de trouver un emploi, monsieur.
Non, mais
on peut trouver un emploi dans un café.
Mais en même temps, il ne faut pas opposer.
Même le mec ne veut pas.
Mais il ne faut pas opposer non plus les difficultés des jeunes dans les zones rurales.
Dans un dernier rapport qui a été publié, effectivement, on voit
c'est aussi une discrimination territoriale de se retrouver en zone rurale.
Je vous l'avais transféré. Même dans le bâtiment, aujourd'hui, il y a de la discrimination. Ça veut dire que même dans le bâtiment,
il y a même de la discrimination à l'embauche. Il y a de la discrimination à l'accession aux prêts bancaires.
Donc, à mon raisonnement, aujourd'hui, il y a une violence sociale et cette violence sociale doit être résorbée de façon pérenne par les hommes politiques qui ont leur responsabilité et les parents. Donc, c'est un outillage global qu'il faut.
Je sais pas, ça va dans tous les sens.
Finalement, on parle de la même chose.
Responsabilité des hommes politiques.
Je regrette simplement qu'on n'ait pas traité les deux autres sujets, mais c'est pas grave. Ça a été aussi une volonté de ma part de vous laisser poursuivre parce que c'était intéressant votre échange. Il était riche, notamment parce que effectivement l'histoire de Nîmes, le cas de figure de Nîmes pose en tout cas plusieurs sous-thématiques. Et vous venez les esquisser vous-même, mon cher Rudy Casi. Et vous-même, vous venez les bâtir, Ahmed Chriette. Et je crois, ce que je retiens, c'est ce fameux projet de société. Qu'est-ce qu'on fait demain dans notre, dans la future France, dans notre futur projet de société?
Absolument. Ce sont toujours les quartiers populaires qui sont visés.
Eh bien, merci, messieurs.
Bilal Vamir. Jamais des gens qui font des boom parties dans ces arrondissements.
Ami, tu parles trop, il voulait me donner le dernier mot.
Non, c'est pas grave.
C'est n'importe quoi.
Les arrondissements qui font des boom parties pendant le Covid et qui respectent pas
c'est
le confinement, on n'en a jamais parlé.
Allez, on va laisser Ami tout seul.
J'invite Monsieur Pro à parler.
Qu'est-ce qui se passe, franchement?
Merci à Rudy Casi.
Bon, à bientôt.
Je vous dis à bientôt.
Oui, à bientôt. Ouais, conseil très municipal.
Mais c'est ça. Mais c'est ça aussi. Mais c'est ça aussi le face à face. Hein.
Ouais, mais bon, faut un peu d'apaisement pour discuter là. C'est on n'est pas à la.
Non, mais parfois c'est aussi.
On n'est pas au café du. On n'est pas au café du coin.
Redis quasi. Parfois aussi, il faut du voilà.
Oui, mais il faut que les auditeurs puissent
pondre des choses. Mais je crois qu'ils ont suivi sans aucun problème, me semble-t-il. Vous inquiétez pas vraiment. Ahmed Chriette, à très bientôt.
Je vous souhaite. Je devais avoir le dernier mot, là, c'est parti.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je sais pas, vous voulez me donner la parole.
Ah, mais je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus.
Généralement, les politiques aiment bien voir le.
À la réalisation, c'était Yanis, Joe, notamment. C'est Bilal qui prend le contrôle de 20h à 21h avec Time Sport. Et je vous dis donc à lundi avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net.